France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les ait peints? Non!
Hi, Dolly. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore it.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout de même, j'y reviens car il nous est arrivé dernièrement de passer une heure en tête-à-tête avec sa robe de chambre. Cette Honorée de Balzac était bien une fashion victime. Les articles qu'il faisait paraître dans le journal La Mode et qui seront rassemblés en 1830 dans son traité de la vie élégante le disaient bien. Pour mener cette vie élégante qui s'enveloppe de beauté, il ne suffit pas d'être né riche ou de l'être devenu, il faut en avoir le sentiment. Et tout cela passe par les mots, bien sûr, les mots que l'on prononce ou que l'on vous adresse. Si l'on vous dit « vous êtes étourdissante », alors la magie opère et c'est tout votre être qui se joint à votre toilette. Mais aujourd'hui, nous sommes bien loin de l'atmosphère raffinée du petit salon parisien balzacien, puisque le défilé de mode est devenu un spectacle total qui prend le monde pour théâtre. Quels sont les mots pour dire désormais le système de la mode, dans sa théorie comme dans ses modes pratiques ? Œuvre d'art ou démesure? Et combien de temps encore allons-nous nous laisser étourdir par cette éblouissante mise en scène de la puissance? Reconnaissez que ce sont aussi des questions pour aujourd'hui, puisqu'elles articulent et de manière surprenante le mot et le geste, l'argent et l'image, l'éphémère et l'histoire. L'événementiel fait-il vraiment événement? On en parle et même on en fait tribune, puisqu'avec nos deux élégants sociétaires, Éléonore Chaline et Manuel Charpie, nous avons le plaisir de recevoir deux invités qui, de la mode, sont à la fois les théoriciens et les praticiens, Émilie Amène et Alexandre de Bétac.
Monsieur Dior disait, une robe, ça se construit comme un immeuble. Touche, faut que tu sentes le tissu. Tu peux faire des belles choses.
Je fais ce que je veux. Ça vous fait rien de coudre des robes qui valent un bras, de venir bosser le samedi, tout ça pour être payé une misère?
C'est pas ça qui compte. Ce que tu es en train d'apprendre, c'est un métier que tu pourras transmettre. C'est ça la vraie richesse.
Depuis que vous êtes arrivée dans ma vie, j'ai tout lâché. Vous vous prenez pour ma mère parce que vous êtes seule.
J'ai rencontré une gamine.
Ça porte malheur de faire tomber des ciseaux.
Je crois que je l'aime bien.
Pourquoi tu fais tout ça? Tu la connais même pas.
J'ai envie. T'as envie? T'as envie de quoi? J'ai envie d'être couturière.
Je voulais t'aider à t'épanouir en fait. En nous donnant un métier qui a ce pouvoir de fabriquer un peu de beauté. Pour le geste. Pour la beauté du geste.
Oui, la beauté du geste, c'est bien ça. Vous avez peut-être reconnu Nathalie Baye et Lina Koudry dans la bande-annonce du film de Sylvie Ohayon, Haute Couture, en 2021. Bonjour Alexandre de Bétac.
Bonjour.
Vous êtes designer et scénographe à la tête d'un studio, Bureau Bétac, qui a organisé plus de 1500 défilés de mode dans le monde entier pour toutes les maisons de couture et de luxe. Et vous êtes un acteur central de la spectacularisation, mais aussi, on va en parler, de l'artification du défilé, même si aujourd'hui vous avez opéré un renversement en créant le studio Tac B, hein, en verlanisant votre nom, puis transformant non pas des événements, mais des lieux en œuvre d'art. Alors, le New York Times, on vous le dit tout le temps, hein, ce truc, vous appelle le Fellini de la mode et le Cécile B2000 des défilés, si vous aviez à choisir, Fellini, Cécile B2000, plutôt Fellini. Hein.
J'ai rien contre Cécile B2000.
Ah non, mais personne n'a rien. Alors, vous êtes ici dans un studio de France Culture, ça vous rappelle des souvenirs?
Ça me rappelle de très nombreux souvenirs, merci. Oui, j'ai eu la chance de passer un peu de temps ici quand j'étais tout petit, quand ma maman travaillait à France Culture à la matinale, à laquelle je dédie d'ailleurs ma présence ce soir, ou cet après-midi. Et j'ai eu la chance d'y revenir d'ailleurs plusieurs fois dans ma vie, parce que j'ai fait quelques défilés, en l'occurrence, notamment au Studio 14. Et c'est un endroit qui m'a toujours énormément ému.
Et inspiré.
Oui. Absolument.
Bonjour, Émilie Amène.
Bonjour.
Vous êtes styliste et historienne, vous enseignez à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous avez aussi travaillé à l'Institut français de la mode, et au fond, comment d'ailleurs dans la mode distinguer la théorie de la pratique? Vous avez travaillé chez Marc Jacobs et Dior à dessiner des gants, des foulards, mais vous avez aussi décidé à un moment de votre vie de faire une thèse qui est devenue un livre paru en 2023 aux éditions B42, l'idée de mode, une nouvelle histoire, son ambition... situer la pratique de la mode dans les plis de l'histoire des idées. C'est bien ça, c'est toujours une histoire de plis, parce que vous vouliez être couturière quand même, franchement. Quand vous
étiez... Absolument, je voulais être couturière. C'était bien ma première perspective professionnelle quand j'étais enfant. Vêtements de poupée Barbie à la pluie, mais effectivement, ça s'est terminé. Ça s'est poursuivi par quelques années d'expérience professionnelle au sein de certaines maisons et cet ouvrage qui est une adaptation de mes recherches doctorales.
Et cette adaptation, elle consiste au fond à mettre l'histoire de la mode, une nouvelle histoire de la mode, c'est cela le sous-titre, bah justement dans l'histoire des idées, hein, depuis Balzac, on en parlait.
Exactement, ce qui m'intéressait c'était précisément sans doute parce que je viens de la pratique que j'ai travaillée pendant une dizaine d'années entourée d'images, d'objets, de matières, de voir comment l'idée de mode pouvait résonner dans des champs discursifs divers et variés et comment ça nous permettait de déplier cette histoire autrement.
Mais alors justement, cette histoire, elle, vous la saisissez à ses débuts, hein, au moment où, on va en parler avec nos amis sociétaires, le défilé s'invente, mais avec Alexandre de Bêta, qui est notre invité fil rouge d'aujourd'hui, évidemment ça a pris une toute autre ampleur, cette histoire.
Absolument. Le travail d'Alexandre de Bêta, qui, au cours de ces dernières années, a vraiment redéfini cet exercice du défilé de mode qu'on discerne sous différents formats dans cette histoire de la création de mode perçue comme pratique artistique telle qu'elle s'invente au cours du 19e et telle qu'on la connaît encore aujourd'hui.
Alexandre de Bêta, c'est ce que vous aviez voulu faire?
Pas vraiment.
Non, c'était en fait, pas ça l'idée.
Pour être plus précis, c'est pas que c'était pas l'idée, c'est que ça n'existait pas vraiment. J'étais toujours très attiré par l'image. J'ai commencé très petit en faisant des photos. La photo m'a amené à rencontrer une créatrice de mode quand j'avais 17 ans, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration dans ses créations, une très jeune créatrice de mode. Et j'ai décidé de l'aider. Et ce mot aider ne voulait tout et rien dire pour moi, parce que je ne connaissais absolument rien de rien. Mais j'étais en train de passer mon bac. Enfin, j'étais à Paris. Et j'ai commencé très spontanément à travailler sur les défilés pour cette créatrice qui s'appelait Sibylla. Mmh. On parle de fin 80, début 90, donc il y a très longtemps, début 90. Et début 90 quand même. Et j'ai petit à petit, spontanément, contribué à inventer une plus grande... comment dire, pas médiatisation, mais en tout cas un attrait médiatique pour les défilés. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un exercice qui était généralement plutôt professionnel. Et c'est quelque chose qui se faisait en interne par les designers et leurs maisons et leurs équipes, ou parfois avec l'aide externe de ce qu'on appelait les bureaux de presse à l'époque, les attachés de presse. Moi, je n'étais ni l'un ni l'autre. Je ne connaissais rien ni à la mode, ni à quoi que ce soit d'ailleurs. J'aimais l'idée de faire des images et d'essayer de contrôler ces images et de l'image en deux dimensions fixes. Je suis arrivé vers cette espèce de nouveau médium qui était le défilé, et en me disant qu'on pouvait le rendre un peu plus media-friendly. Je ne sais pas comment dire ça plus précisément en français. Et c'était le début, effectivement, des défilés. Alors, il y avait avant moi les grandes maisons des années 80 et 90, mais qui étaient faites en interne. C'était un peu le début des défilés de mode à la télé et pour un public plus large.
On va resituer toute cette histoire, mais on peut même aller un petit peu avant. Hein. Manuel Charpie, bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, je rappelle, sociétaire de cette émission, historien des objets et de la SAP, fondateur en 2015 de la revue Mode Pratique, revue d'histoire du vêtement et de la mode. Vous savez quelles questions on pose aux historiens, ça a commencé quand? Le défilé de mode, vous le saisiriez où dans ses origines?
Peut-être avant le défilé de mode, justement. C'est marrant parce que ça résonne avec ce que vient de dire Alexandre de Bêtac. On considère, et enfin, je suis d'accord avec ça, que ça commence en fait sur les scènes des théâtres, quelque part dans les années 1860, 70, 80. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire de la mise en spectacle d'un, comme vous l'avez dit, d'un défilé très professionnel, les professionnels vont plutôt monter sur scène, en quelque sorte, sur les scènes des théâtres. Il faut se souvenir que c'est le premier média à l'époque. Et il y a tout un tas de textes assez marrants, notamment de Zola, mais de plein d'autres, de metteurs en scène qui se plaignent parce qu'on leur fait réécrire leurs pièces pour que ça colle avec les robes qu'on doit présenter sur scène, des robes de créateurs. Et donc, il y a des systèmes de contrats, enfin tout ça est assez bien documenté, qui se mettent en place. Donc, ça naît d'abord sur les scènes de théâtre, à Paris, à Londres et puis à Broadway, à New York.
Oui, Émilie Hamen, vous avez, avec Manuel Charpie d'ailleurs, participé au dernier numéro de la revue Histo-Art, intitulé Mode, espace critique. Vous avez co-dirigé avec Pascal Rousseau, qui est d'une certaine manière l'historien de l'art, qui a mis la mode, je dirais, dans le corpus hein, de l'histoire de l'art. Et vous, vous faites une histoire, justement... intellectuel de tout ça, de ce moment dont parle Manuel Charpie, du moment où, en fait, de théâtralité, avant de parler des grands médias d'Alexandre de Bethac, il y a cette théâtralité dans la vie bourgeoise du 19e siècle.
Oui, et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé de considérer, c'était la façon dont ces différents rouages rentrer aussi dans une histoire plus générale de légitimation artistique de la mode. Le grand problème, si je puis dire, des créateurs, des premiers grands couturiers du second 19e siècle, c'est de bien démontrer qu'ils sont effectivement des artistes. Oui. Donc des rapprochements opportuns avec d'autres scènes artistiques qui sont déjà reconnues comme telles, ça fait aussi partie de ces différentes stratégies. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que disait Manuel à l'instant, il y a des commentaires de contemporains dans ces années-là, 1870-1880, qui racontent comment les avant-premières des pièces de théâtre dans le public, ce ne sont que des marchandes de mode, couturiers, coiffeurs, etc. Tous ces gens de mode qui viennent scruter, pas tant le jeu de l'actrice, mais voir si leur placement de produit, dirions-nous avec des mots plus contemporains, fonctionne. Et donc, c'est vrai que c'est un moment intéressant du point de vue commercial comme créatif.
Alexandre de Bethac, vous dites que vous faites des images et Éléonore Chaline, ben bonjour, je vous accueille aussi dans ce studio. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire de la photographie, justement, à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Et donc, vous venez aussi avec cet autre média qu'est la photographie, c'est-à-dire quand est-ce que naît la photographie de mode, d'une certaine manière. J'imagine que, comme toujours en histoire, il y a plusieurs origines possibles.
Voilà, il y a plusieurs naissances possibles. Le moment dont parlent Manuel Charpie et Émilie Hamen, ce moment des années 1860-70, il n'est pas photographié dans les théâtres, en fait, puisqu'on ne fait pas encore de photos à cette époque-là dans les salles de spectacle. Le flash arrivera plus tard. Enfin, on ne fait pas de photographie des représentations. Et donc, la photo de mode... On lui donne parfois une naissance au moment où certaines femmes vont commencer à se faire photographier dans différentes tenues. C'est le cas de la comtesse de Castiglione, notamment par Pierre-Louis Pierson dans les années 1860, qui est en fait une sorte de directrice artistique d'elle-même face aux photographes. Ça, c'est une première naissance. Et puis, la deuxième naissance, c'est le moment où vont commencer à se développer les revues illustrées. Et où on va avoir besoin d'images photographiques. Et donc, au début du XXe siècle, on commence à avoir de plus en plus d'images photographiques de mode versées dans ces revues, mais ce ne sont pas des images de défilé.
Bah vous voyez, Alexandre de Bethac, que le XIXe siècle est média-friendly. En fait, il y a un ensemble, le système de mode qui est... Alors, qu'est-ce que vous avez inventé par rapport à ça, ou réinventé, évidemment, par rapport à ce qu'on décrit là?
Je pense que même ni inventer ni réinventer, peut-être juste évoluer. Maintenant, on parle d'il y a 150 ans. Ouais. Je suis arrivé un peu plus de 100 ans plus tard, moi, donc. ce que je pense avoir contribué, mais sans le calculer, pour être parfaitement honnête, ça s'est fait assez spontanément, naturellement. C'est peut-être la joie de démarrer une vie professionnelle en n'ayant pas apprise et en se l'inventant sans le savoir. C'est d'avoir juste essayé d'amener cet exercice à quelque chose à la fois de plus... émouvant peut-être et de plus télégénique et médiatique par des systèmes que je n'avais pas calculés à l'époque mais que je peux analyser a posteriori en changeant la temporalité, en rendant ces défilés plus courts. cours, en maîtrisant mieux leur lumière, leur chorégraphie, en ajoutant un peu plus de spectacularité. On me l'a beaucoup, parfois même reproché, mais c'est une réalité. Je pense, et j'ai toujours pensé, qu'en fait, la quantité de défilés était telle qu'il fallait, pour le rendre mémorable, avant tout le rendre émouvant, et peut-être pour le rendre émouvant, toucher un peu plus les sens des gens et toucher tous leurs sens, pas juste le visuel du vêtement, et donc de travailler un peu plus, un peu mieux et un peu différemment l'assemblage et la chorégraphie entre la lumière, entre la musique, entre le temps, entre l'action, parfois les effets spéciaux et tous les outils qui nous sont donnés d'avoir quand on fait un défilé.
Oui, de plus en plus court, hein, Manuel Charpie, jusqu'à des fois 10 minutes aujourd'hui, ça peut être, je dirais, une sorte de paroxysme spectaculaire. Hein. C'est ça aussi la société du spectacle telle qu'elle se définit aujourd'hui.
Oui, puis je me disais que la bascule est intervenue, mais vous me contredirez peut-être, aussi au moment où, parce qu'il y a eu quand même un long moment où les photographes, les dessinateurs, etc. étaient interdits dans les défilés. Et puis, quelque part dans les années 50-60, on se rend compte qu'on n'y arrive pas parce qu'on voulait éviter la copie. Et d'un coup, ça devient très médiatique. Et je me dis que c'est aussi quand même le moment où les grandes maisons se mettent de plus en plus à vendre des sous-produits. Mmh. C'est-à-dire que c'est un événement très médiatique et mondialisé. Et vos défilés, quand on regarde les scores de vues en ligne, etc., c'est quand même effarant. Ça vient aussi du fait qu'on va acheter tout un tas de sous-produits, enfin qu'on fabrique de l'identité. Cité de marque, je sais pas si on dit ça encore comme ça, mais je sais pas comment vous voyez ça, vous, dans le...
Oui, je pense qu'on contribue à la communication de la marque de manière grandiose, et plus précisément à l'image précise de chacune des marques, et j'irai plus loin, parce qu'il y a une temporalité de filet qui est tellement courte, et il y en a tellement... qu'on travaille, pour moi, quand on fait un défilé, à la fois sur l'image et le DNA, comme on dit, de la marque, depuis toujours et pour toujours, et sur la temporalité très courte, c'est-à-dire sur ce qui peut être attractif exactement sur le moment. Maintenant, le défilé montre effectivement des collections, parfois très complexes et parfois très coûteuses, et sert beaucoup, évidemment, à promouvoir la marque en général, et en particulier les produits moins coûteux du moment.
Bon, alors, je vois que nos historiens ne se mettent pas d'accord sur qui a inventé le défilé. Je suis terriblement déçu, parce que Roger Vorte, lui, dans Paris vous parle, à l'automne-hiver 1954, le savait, lui, il disait que c'était son grand-père.
Roger Vorte, c'est votre ancêtre qui a inventé les défilés de mannequins. Oui, n'est-ce pas vrai?
Oui, c'est exact. Avant mon grand-père, c'est-à-dire après la première moitié du 19e siècle, il n'y avait pas de présentation de couture. Et c'est mon arrière-grand-mère qui a été, en fait, comme mannequin mondain, le premier mannequin de la couture, sous sa forme actuelle.
C'est-à-dire que si nous devons écrire l'histoire de la haute couture française, il faudra commencer par votre nom.
Exactement, Charles-Frédéric Vorte.
Et maintenant, j'ai l'impression que, fidèle à la tradition, vous avez également inventé une formule nouvelle pour adapter la couture à la vie de la femme moderne.
Bien, mon Dieu, je crois qu'inventer est un bien grand mot. J'ai tout simplement tenté de réaliser le rêve de toutes les femmes, c'est-à-dire de pouvoir acheter de jolies robes élégantes et pratiques à des prix moins élevés, ainsi que le commandent malheureusement trop souvent les circonstances économiques actuelles. Et la collection d'automne-hiver qui va être présentée lundi prochain en sera, je l'espère, une démonstration flagrante.
France Culture, allons y voir. Patrick Boucheron.
Grand-père, arrière-grand-père, pardon pour la confusion. Alors, Émilie Amen, on est toujours dans cette histoire d'invention-réinvention.
Absolument, moi ce qui m'amuse beaucoup, c'est de voir comment, bien sûr, les créateurs aiment se positionner précisément comme des pionniers. Alors assurément, on ne va pas retirer à la dynastie Worth d'avoir été précurseur à plus d'un titre pour beaucoup de choses, et notamment d'avoir inventé ce système de la haute couture, qu'on perçoit avant tout comme un système créatif, mais qui est aussi, surtout, un système médiatique. Et l'arrière-grand-père, en l'occurrence, Charles-Frédéric Worth, c'est quelqu'un qui pense... l'interview, qui se met en scène, qui se met en image, qui pose pour des portraits et qui va vraiment forger cette culture médiatique de la mode. Et effectivement, on peut aussi regarder la mode comme une succession de réinvention de ces modèles à la fois créatifs, médiatiques et bien sûr commerciaux. Et c'est ce déroulé d'une histoire des défilés de mode, il marque des inflexions en fonction du basculement d'un modèle économique à un autre. En l'occurrence, celui qui est évoqué dans cet extrait, c'est celui de la naissance de la haute couture, mais il doit parler bien 60 ans plus tard, je pense, dans un moment au XXe siècle où ce modèle est déjà en proie à une première crise.
Éléonore Chaline.
Moi, ce qui me frappe, en fait, aussi, c'est la manière dont la mode a toujours besoin de l'image, sous quelque forme qu'elle soit éphémère, qu'on crée une image au moment d'un défilé, une image générale, une chorégraphie, un spectacle, qu'on crée une image fixe ou une représentation, un dessin, un croquis, quelque chose qui va évoquer la mode. Finalement, la mode est tout le temps se nourrit en permanence d'images et finalement produit aussi des images. Et ce qui me frappe aussi quand je regarde toutes les publications liées à la mode, que ce soit sur l'histoire de la mode ou sur la mode aujourd'hui, tous les livres qu'on peut faire sur la mode, c'est le nombre finalement de captures, de photographies qu'on trouve un peu partout. Et cette corrélation entre la photographie et la mode, elle se fait au 20e en fait, vraiment. Elle va faire que se renforcer. Et moi, la question que je voulais peut-être vous poser aussi par rapport à ce que vous avez dit en introduction sur votre rapport à l'image, finalement, vous êtes entré par la photo, vous êtes entré par la photographie aussi. C'était quoi à cette époque-là? Est-ce que vous aviez des inspirations? Est-ce que vous regardiez un peu les photographes de mode? Est-ce que ça faisait partie de votre univers? Ou est-ce que ça s'est fait un peu comme ça, parce que vous aviez un appareil ou... Voilà.
Alexandre de Bétac.
Un peu les deux, mais plus que de regarder les photographes de mode, je crois que j'ai commencé à regarder les photographes de mode un peu plus tard. Moi, j'ai commencé à faire des photos très petites parce que je pense que le contrôle et l'image ensemble me passionnaient. Et le fait de faire des photos me permettait justement de contrôler ce que je mettais dans le cadre et peut-être d'assembler, de dessiner, de géométriser ce que j'y mettais. Quand je suis passé au défilé, j'avais l'impression de continuer à faire la même chose, c'est-à-dire de contrôler quelque chose qu'on met dans un cadre, mais en y mettant évidemment une action vivante et beaucoup plus d'éléments. La réalité, c'est qu'à l'époque, les défilés de mode, d'ailleurs, étaient justement, l'image était entre guillemets peut-être moins contrôlée parce que l'époque où moi j'ai commencé, c'est l'époque où on voyait les runways comme ça, les passerelles très longues, et les photographes accroupis le long des runways en train de shooter d'en bas vers le haut les mannequins qui défilaient. Quand moi j'ai commencé, j'ai peut-être aussi contribué à cette idée de contrôle de l'image, justement, qui était de dire non, cette photo, d'abord, c'est pas la meilleure, c'est vraiment pas le point de vue le plus flatteur pour la personne qu'on photographie. Et en plus, et pour rien d'ailleurs, on a ce qu'on appelait on a déplacé les podiums photos, enfin, ce qui s'appelle toujours le podium photo, on les a mis devant les runways, comme ça, la photo, elle est de face d'une personne qui marche vers la caméra. On contrôle, quand on dessine une salle et un défilé, la totalité du placement de ces caméras. On contrôle l'angle, on contrôle la lumière, et d'une certaine manière, on fait la photo, et d'ailleurs il y avait la photo, puis ensuite il y a eu le film, enfin la télé, donc le film. Et la télé est quelque chose qu'on a contrôlé complètement aussi, et l'évolution des médias par la suite nous a ramené vers les côtés et vers tous les points de vue de la salle, parce que maintenant c'est les gens qui font leurs propres images depuis leur téléphone et qui les postent sur les réseaux sociaux, mais qui d'une certaine manière est quelque chose qu'on a contrôlé aussi. Donc pour revenir à votre question, oui, je pense que l'image est ce qui m'a fait commencer, mais c'était sa mise en trois dimensions qui m'a tenu là où c'était.
Vous aviez une envie, Manuel Charpie, pour cette émission irrépressible, c'était qu'on parle d'un film. Qui êtes-vous, Polly Magou, de William Klein, 1966. On écoute et on en parle après.
Passe-moi les cigarettes. Ah, ma grande. Toi, tu sais ce que t'as à faire, hein. Tu tournes, tu planes et tu t'envoles. Voilà. Tu tournes, tu planes et tu t'envoles. Tu comprends bien, tu réponds. Voilà. Ah, et puis on ne repasse pas deux fois, c'est pas la peine de repartir deux fois.
Ah, voilà, Miss Maxwell, quelle punaise. C'est laquelle est-ce? Bah, c'est la rédactrice en chef, tu l'as vu entre... Oh,
non, encore rien comprendre, cette conne. En vrai, ça fait rien. Donc c'est parti. Oui, bon, ça suffit maintenant. C'est pas la peine de s'y rétendre. Allez, ça va.
Numéro 1. Number 1. Numéro 1.
Oh, c'est très bien.
Ah, ça, c'est absolument admirable. Évidemment, pas commode, mais que faire?
Oh, c'est étonnant. Ah, oh, c'est beau, ça. Fantastique. Ça, c'est une beauté. Oh, la femme est formidable. Magnifique.
Magnifique.
Michel Legrand avec Samy Fred, Delphine Seyri, Jean Rochefort, Philippe Noiret, 1966, toute votre jeunesse, Manuel Charpie. Qu'est-ce qui vous touche là-dedans? Outre la nostalgie, évidemment.
Oh, à part la nostalgie. Non, ce film est assez génial quand même sur la mode. Il est de 65, enfin il tourne en 65, c'est tôt quand même dans ce regard un peu iconoclaste. Et puis c'est quand même réalisé par William Klein, qui est un photographe très important, qui est celui qui une dizaine d'années, enfin un peu moins de 10 ans avant, a été le premier à mettre des mannequins dans la rue pour les photographier. Voilà, donc c'est quelqu'un à la fois qui participe à cette économie et en même temps qui est capable de pas de côté assez musclé. Et là, pour que les auditrices et auditeurs se figure la chose, ça se passe dans une espèce d'architecture grotte peinte en blanc où en gros le public est captif, mais un public très sélectionné, un peu humilié, qu'on fait asseoir un peu mal. Voilà, ça participe. Voilà, sur plusieurs étages, exactement. Mais un public très choisi et où la question de la médiatisation est assez marrante puisqu'elle passe encore par la presse. On l'a entendu par la grande figure de la papesse de la presse, toujours existante aujourd'hui.
Et Léonore Chaline, William Klein.
Oui, William Klein, à la fois, enfin, il fait tout en fait. Il est à la fois graphiste, photographe, cinéaste. Voilà, il a fait beaucoup de photos de mode. Et c'est vrai que c'est un moment où la photo de mode essaie de se réinventer dans l'après-guerre, de casser un peu les codes qui ont été mis en place avant, de libérer aussi la photographie de mode, de la faire sortir du studio. D'essayer de trouver des nouvelles manières de faire. Et donc, c'est un milieu qu'il connaît très bien et qui regarde aussi à sa manière, à la fois en étant dedans et à distance. C'est ça qui est intéressant, je pense, aussi dans Polymagou.
Oui, sa grande expo, je ne sais pas, il y a une quinzaine d'années sur William Klein et la mode, commencé par sa citation qui est « La mode, je m'en tape ».
Ah oui. Voilà. Bon, mais alors, cela dit, Alexandre de Bettac, tout a été tenté depuis. Il y avait une grotte. Au fond, c'est plutôt la ville qui est le théâtre de votre fantaisie. Toute la ville, d'une certaine manière.
Vous avez toutes les villes, et puis on a dépassé les villes depuis quelques années. Alors, tout a été tenté, je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai envie de répondre que non. Dieu merci, qu'il reste encore des énormément de choses à tenter. Ce qui est vrai, c'est que pendant des décennies maintenant, ça fait plusieurs décennies depuis que moi j'ai commencé, les défilés ont grandi, les fashion week ont grandi, il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de villes dans le monde, ça s'est globalisé de manière formidable. Et donc il y avait à l'époque Paris qui était la plus importante, qui est toujours la plus importante, à laquelle s'est ajouté Milan, puis Londres, puis New York, puis Shanghai, puis toutes les villes du monde maintenant ont une fashion week, pas qu'elle ait de l'importance, mais en tout cas elle existe. Ce qui s'est ajouté aussi qui est important, c'est que par contre depuis une 10 ou 15 d'années maintenant, il y a ce qu'on appelle les défilés croisières, les défilés précoles, etc. Donc il y a d'autres défilés importants pour la presse du monde entier et le public du monde entier qui se déplace dans des nouveaux endroits. Donc on a étendu les quelques capitales mondiales dans lesquelles avaient lieu les Fashion Week à vraiment le monde entier. Et c'est un phénomène qui est nouveau et qui, à mon avis, est une bonne suite à ces débuts de 66 de ce qu'annonçait William Klein dans Polymagou.
Fashion, turn to the left. Fashion, turn to the left. Ooh, 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 ooh.
Fashion, David Bowie. On est en 1980, Emilia Mène. Et à ce moment-là, évidemment, les choses sont en train de changer.
Exactement, on avait les podiums qu'Alexandre de Bettac évoquait il y a quelques instants. Dans ces années 80, ce qui est assez frappant, c'est que cette génération qu'on va appeler les créateurs, notamment quelqu'un comme Thierry Mugler, Claude Montana, Jean-Paul Gaultier, ils vont aussi se saisir de cet espace du défilé de mode, non plus seulement comme une sorte de dispositif de présentation, de silhouette à commercialiser, à être clairement lu et analysé par des acheteurs qui viennent regarder des produits. Le défilé de mode va aussi devenir en soi un moment de performance.
Oui.
Et on pense notamment à ces grandes productions au Zénith de Mugler. Ça devient un spectacle. Ce que ça a toujours été en soi, mais il y a vraiment, à mon sens, un tournant, quelque chose qui se réinvente là. On va parfois un petit peu voir disparaître ce podium pour rentrer dans un environnement, dans une expérience qui est aussi plus immersive pour les spectateurs. Et ça, c'est quand même assez frappant. À ce moment-là.
Alexandre de Bettac, c'est ça, c'est pour vous, c'est votre monde, oui, oui. Il commence là.
Ce monde, il commence là. Moi, j'étais à l'école, j'étais petit, donc je le regardais de loin. La différence entre... Il a totalement commencé là, ça se faisait en interne dans les maisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, par ces créateurs-là et quelques autres, mais ils n'étaient pas beaucoup, une poignée de mains. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est d'ouvrir le public, c'est d'agrandir le public. C'est-à-dire que les défilés sont devenus effectivement des performances, mais pour un public très restreint. Ce qu'on a commencé à faire après, c'est de les rendre, de les adapter un petit peu pour que le public puisse être beaucoup plus grand via les différents médias.
Seulement, je vous connais, vous, les historiens, et en particulier vous, Manuel Charpie, vous allez me dire, ça a commencé avant.
Oui, on se disait avec Émilie, Amène, s'il faut retenir une date de la naissance, de la naissance des défilés, c'est sans doute dans les années 1910. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à peu près en même temps à Londres, à Paris. Enfin, voilà, c'est un espace. Et c'est donc à Lucy Gordon à Londres et Paul Poiret à Paris. Et c'est au moment où, en fait, ils sortent des maisons. C'est-à-dire que d'un coup, on va faire sortir ces mannequins. Qu'on appelait des sosies, qui étaient des jeunes filles couvertes de noir, qu'on faisait défiler comme ça, qu'on essayait en fait de rendre abstraites, et où on va sortir des maisons et défiler dans un jardin, dans un théâtre, etc. Donc commencer à penser de la mise en scène, y compris avec des univers, ça peut être le soir, c'est pas nécessairement la journée, avec des ambiances, des éclairages, et de la musique aussi. En entendant Bowie, on se disait aussi que les années 80, c'est quand même aussi la musique qui arrive... de façon très forte pour créer des ambiances dans les défilés.
Bon, bah, puisque vous me parlez de Paul Poiret, moi j'ai envie de vous faire écouter ça.
La Reine de Londres, quel est le modèle le plus ancien ?
Le modèle le plus ancien date de la période 1900. C'est une robe qui est déjà avant la lettre rétro, puisque cette dame porte un corset comme sa grand-mère, comme son arrière-grand-mère, voilà trois siècles que l'on portait des corsets.
Alors juste à côté, il y a une autre très jolie robe des cerises.
Alors une de ces robes de Poiret qui marque la naissance du costume de la femme moderne, c'est-à-dire une robe droite avec juste un lien sous les seins, une robe brodée dans un style folklorique car Madame Poiret m'a raconté que les galons qui brodent cette robe qui s'appelle Fleury, c'est une robe de 1911, que les galons qui brodent cette robe dans un style qui nous paraît si actuel ont été achetés sur les marchés de Pologne. J'ai mieux vous dire qu'en 1911 c'était une révolution.
Alors un admirable voile, comment dit-on, arachnéen dans ces cas-là, n'est-ce pas ?
Oui, on peut dire arachnéen. C'est une robe de lèse de dentelle des sœurs Callot, qui étaient des grandes couturières de l'époque, la même période que Poiret du reste. Mais là, nous sommes arrivés en 1925, à la période où les robes des femmes sont absolument droites. On a non seulement supprimé le corset, mais on a aussi supprimé la taille. Et ce qui m'a toujours paru mystérieux, c'est qu'apparemment, on a aussi supprimé la poitrine. Si vous regardez bien, vous ne voyez aucune espèce de pince. Est-ce que cette malheureuse créature pouvait faire de sa poitrine ? Je n'en sais rien.
Alors, après, il y a un tailleur assez somptueux.
Alors là, nous avons sauté un peu de période, mais nous sommes sautés à la révolution la plus spectaculaire que l'on ait vue dans la mode contemporaine, en 1947, lorsque Christian Dior a proposé la ligne que l'on a appelée New Look. Une ligne qui, du point de vue de la silhouette, était tout à fait rétro. La taille était serrée. On ne peut absolument pas boutonner cette veste, car elle fait 51 cm de tour de taille. Aucune femme à l'heure actuelle, même mince, n'a ce tour de taille.
C'était l'émission Restez donc avec nous le mardi en 1978 qui interviewait Yvonne Deslandre, conservatrice de musée, historienne, spécialiste de l'histoire du costume, comme vous, Manuel Charpie.
Oui, c'est une historienne importante. Oui. Voilà. Mais ce qui me frappait en l'écoutant, c'est aussi des souvenirs peut-être, c'était la question de la langue qui accompagne les défilés. On a dû tous entendre quand on était plus jeune ces commentaires à la télé, c'est assez à la fois très envoûtant, un peu absurde, où il fallait nommer chaque modèle, décrire chaque vêtement, si c'était bouillonné, je sais pas quoi. Voilà. Donc une espèce de langue comme ça, on a l'impression que ça pouvait ne jamais s'arrêter. Et ça, ça m'intéresse par rapport à ce que vous faites, Alexandre Bétac, sur la question du commentaire de mode, du texte, de la langue. On a l'impression que ça a un peu disparu au profit de l'image, peut-être, et de, je sais pas. Quelle est la place de l'écrit dans toute cette production actuelle ?
De l'écrit et du commentaire, en fait.
L'écrit et du commentaire, c'est un très bon point. Effectivement, ça a totalement disparu. Si on généralise ce que les médias font des défilés aujourd'hui et ce que sont les défilés, c'est un concours d'images, d'images qui duraient une demi-heure il y a encore quelques décennies, les années 80-90 dont vous parliez, qu'on a commencé, moi le premier, je crois, à réduire en temps le plus possible pour les rendre médiatiquement plus acceptables et abordables pour un temps court de télé au début, sur les journaux télévisés, où déjà il n'y avait plus vraiment la place pour les commentaires, parce que la musique est très importante, il y avait de la choré, au lieu de durer 10 minutes, à la télé on passait quelques minutes, voire quelques secondes, donc les commentaires étaient plus restreints, et on est rapidement évolué vers le web, c'est-à-dire vers les défilés online, qu'on regardait donc sur un écran d'ordinateur relativement grand, comme ceux qui sont là, et ensuite très rapidement vers les réseaux sociaux, notamment Instagram, sur un téléphone pour l'immense majorité. Et c'est vrai que le résultat aujourd'hui, c'est que les défilés, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs, mais sont destinés à être vus principalement dans la paume de la main sur l'écran du téléphone et à être mis en scène de manière le plus courte possible pour que ça puisse être compréhensible et impressionnant en quelques secondes ou quelques dizaines de secondes maximum. Donc tout cela, malheureusement, laisse peu de place à l'écrit. Il y a encore, par contre, ce qui est intéressant, c'est que il y a dans le monde de la mode et du défilé de mode un espèce de contraste et de fascinant entre tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette évolution vers une mondialisation et une ultra rapidité et efficacité de l'image en quelques secondes, et en même temps ce que j'ose appeler un vieux monde, c'est-à-dire le fait que la majorité du public d'un défilé de mode est toujours le même depuis que même moi j'ai commencé. Depuis plus de 3 décennies, ce sont les mêmes gens. Beaucoup de nouveaux sont arrivés, il y a ce qu'on appelle les influenceurs, mais la presse traditionnelle écrite, qui est en partie devenue digitale, mais qui existe toujours écrite, est toujours là. Et dans le monde important de la mode, le public le plus important hiérarchiquement reste celui-là. Donc il y a quand même une place aux mots. Il y a moins de mots dans les magazines de mode qu'il n'y a d'images. Mais il y a un petit peu de place aux mots quand même. Il y a quelques grands critiques de mode et de défilés de mode qui sont des gens qui écrivent et qui écrivent des reviews, comme on dit, qui écrivent des commentaires tous les jours sur tous les défilés. Donc oui, existe.
Mais on voit bien, ce qu'on a entendu, c'était un plaisir d'écrire. Et dans votre livre « L'idée de mode, une nouvelle histoire », Émilie Amène, on voit bien comment pour vous, le geste de pratique de la mode y trouvait, je dirais, son relais dans ce plaisir de le situer dans les plis du langage. Donc, vous y retrouvez encore aujourd'hui dans la mode contemporaine, dès lors que malgré tout, on le comprend à vous entendre, Alexandre de Bétac, qu'on est plutôt dans le tout image.
Oui, de la même manière que j'ai essayer d'esquisser une histoire de la mode dans le contexte de l'histoire des idées, on pourrait complètement déplacer cette notion de mode, et certains l'ont fait bien évidemment, dans une histoire des technologies, dans une histoire des technologies de l'image. Et il est vrai que la façon dont des auteurs, notamment Balzac au XIXe siècle, décrit la mode de manière tellement imagée, que ça soit les attitudes, que ça soit même les étoffes. Je ne sais pas si c'est pour pallier l'absence d'images photographiques dont il a, pas encore bien sûr la connaissance. Aujourd'hui, les images, elles disent tellement de choses, elles sont tellement spectaculaires que peut-être qu'elles ont...
Elles se passent de mots.
C'est ça. Et à mon sens, véritablement, dès ces années 20, dès ces années 30, ce grand moment de la direction artistique, de la presse illustrée, c'est le moment où la mode, d'un point de vue historique, tel que j'essaie de l'analyser dans mes travaux, bascule pleinement dans ce régime de l'image, jusqu'à devenir presque pure image. Oui. Quitte à même s'interroger sur l'existence même. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a plus de vêtements, mais j'ai le sentiment que ce qui prévaut, c'est précisément la représentation des objets par les images.
Oui, et puis justement, oui, Éléonore Chaline.
L'autre bascule, c'est le moment du numérique d'une part, mais c'est pas tant ce moment-là que les réseaux sociaux, en fait. Déjà, premier appareil photo portable 2007, voilà. Donc c'est pas si vieux, mais en même temps, c'est il y a 18 ans. C'est quand même, en fait, toute une génération. Et l'arrivée d'Instagram, du partage des images, c'est quelque chose que vous avez vécu au long de votre carrière. Enfin, vous l'avez dit, on a raccourci le temps, on a pensé les choses pour le téléphone portable. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ça implique dans le faire même du défilé, de se dire, il faut qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus court, il faut qu'on fasse une image pour les téléphones portables. Qu'est-ce que ça modifie ?
D'un point de vue pratique et d'un point de vue technique, ça modifie tout, ça change tout. Ce que j'avais dit un petit peu avant, c'était quand moi j'ai commencé, on avait enlevé les médias, les photographes des bords des runways pour les cadrer, les mettre devant sur un podium, on contrôlait leur point de vue. Quand le numérique, enfin quand l'Instagram surtout est arrivé, on est revenu en arrière, c'est-à-dire que tout à coup, ce qu'on avait contrôlé comme un podium photo devant les runways est devenu une salle entière remplie de gens en train de photographier, de filmer avec leur téléphone. Ça a absolument tout changé, parce que maintenant, les points de vue qui comptaient visuellement et que l'on souhaitait maîtriser du mieux possible devenaient tous les points de vue. Et la temporalité aussi, parce qu'en plus, Instagram, au début, les premières vidéos, c'était un maximum de, j'ai un trou, de 15 secondes, je crois. Je crois qu'il fallait qu'on tienne dans 15 secondes, après c'est passé à 30. Maintenant, il y a plus, bon, maintenant il y a des lives et maintenant il y a plus de limites. Mais donc, il y a eu dans les 10 dernières années un certain nombre de changements qui nous ont fait complètement repenser la manière de penser ces défilés. Non seulement de les faire plus courts parce qu'au-delà du téléphone et d'Instagram, les gens ont une attention beaucoup plus courte en général, mais aussi beaucoup plus court pour que les moments isolés, même de quelques secondes, ou sur une photo ou de quelques secondes de vidéo, soit le plus mémorable et le plus important possible pour représenter la marque, l'image et le défilé du jour en question.
Émilie Amen ?
Oui, moi, je me rappelle, alors j'y étais pas, 1997, Helmut Lang, ce fameux premier défilé CD-ROM, comme l'a appelé la presse, qui passait entièrement par l'image numérique. Et par contre, je me souviens aussi, étudiante en mode, nous, on regardait enfin les défilés, alors qu'on n'y était pas conviés, mais grâce à un site internet qui n'existe plus, style.com, qui a été racheté, qui s'est transformé. Mais il y a aussi ce moment, en fait, où cette bascule, on est au tout début du 21e siècle, où ces images, maintenant, elles sont pour tout le monde. Alors que précisément, avant, ces images de mode, ces spectacles de mode étaient pour les fameuses rédactrices en chef et cette presse triée sur le volet, comme on l'a vu avec Polymagou, alors que maintenant, c'est tout le monde. Oui. Tout le monde avec un lecteur CD-ROM ou une connexion Internet.
Et Léonore Chaline ?
Ça passait quand même un peu à la télé. Donc c'était quand même assez démocratique déjà, si on s'y intéressait. Mais là, c'est que l'image a une puissance aussi qui est... polymédiatique, quoi, on pourrait dire. C'est-à-dire, elle est un peu partout, on peut la diffuser de plein de manières, et on multiplie les points de vue sur le défilé, et j'imagine qu'on pense aussi toujours l'image qu'on va donner. C'est-à-dire, il y a toujours une mise en abîme de qu'est-ce que ça va donner en image. I am, I'm too fabulous, I'm so fierce that it's a nut, I live to be my dolphin. I'm your mannequin. J'adore Vivienne, habillez moi Gucci, Fendi et Prada, Valentino, Armani, tout. Merde, I love them, Jimmy Choo. Fashion, put it on the man. Don't you wanna see these clothes on me? Can't walk down the street in those. You are who you wear, it's true. A girl's just as hot as the shoes she chooses. J'adore, ouais, c'est mon habillé-moi. Louis, Dolce, Gabbana, Alexander, McQueen, et oh merde, I love those Manolo. Fashion, put it on the man. Don't you wanna see these clothes on me? Fashion, put it on the man. I'm
Fashion, Lady Gaga, 2009, cette fois-ci. Vous vouliez réagir, Alexandre de Bétac, à ce que disait Éléonore Schelling tout à l'heure.
Oui, je disais qu'on arrive à un moment, on parlait de l'avènement donc du digital et de la démocratisation des défilés pour tout le monde, on arrive au revers de la médaille de tout cela, c'est que c'est devenu tellement surmédiatisé, surglobalisé. Il y a de plus en plus de défilés, il y a de plus de gens qui regardent les défilés. Il y a un phénomène extraordinaire qui, en très peu de temps, je crois en une décennie, je me souviens, en début du digital, de Facebook et même avant Instagram et d'Instagram, les marques comptaient leurs impressions par centaines de milliers, puis enfin par dizaines de milliers, puis centaines de milliers, puis quelqu'un atteint le million un jour. Maintenant, on parle de dizaines de millions, voire de centaines de millions, littéralement, quand on compte les impressions digitales d'un défilé très très important des grandes maisons, des grands groupes. La contradiction de tout ça, c'est que c'est aller trop loin, je ne veux pas parler nostalgiquement, mais ça va tellement, tellement loin qu'on comprend maintenant que l'exercice d'origine du défilé de mode, c'est la communication, mais c'est aussi la création du désir. Et la surglobalisation et la surmédiatisation est un petit peu en train d'aller à l'encontre de cette création de désir. D'un côté, les chiffres gigantesques sont formidables, ils impressionnent, les centaines de millions qui ont vu le défilé tel ou tel. Et il commence à y avoir des marques et des maisons pour lesquelles il faut justement essayer de contrôler au maximum, d'avoir moins de médias, d'avoir moins d'impressions, d'essayer de demander au public live de ne plus filmer. C'est le cas pour certaines maisons, c'est des choses qu'on a commencé d'instaurer il y a un certain temps. C'est pas général, ce que je dis, ce n'est que le début, mais c'est le début pas d'un retour, c'est le début d'un nouveau futur vers lequel on va essayer de contrôler un petit peu mieux, pas de être moins démocratique, le monde restera global comme il l'est, mais d'être peut-être, de chercher des nouveaux moyens de créer le désir qu'on a peut-être perdu en faisant des centaines de millions d'impressions.
Non, ce qui me frappait aussi en regard, en creusant dans mes souvenirs comme ça de défilés que j'ai vus très médiatiquement, c'est-à-dire totalement à distance, c'était de me dire aussi que ces dernières années, je sais pas, ces 5-6 dernières années, et vous y avez participé, le fait d'avoir des événements qui sont qui peuvent être un peu choquants, qui peuvent être un peu justement, je sais pas, je pense au défilé. Voilà, au défilé dans la boue, au défilé, voilà, des défilés qui, d'un coup, abîment et cornent les images, enfin, résistent un peu plus à la pure séduction. Je me demandais comment vous voyez ça, c'est-à-dire le tout glamour, on voit bien aussi que ça va ressembler à une espèce de géant pot de miel et que ça va pas aller. Et comment on fait, et notamment, sans doute, en s'inspirant de l'art contemporain, enfin, on a l'impression qu'il est très mobilisé, est très digéré dans tous ces défilés.
Il est très mobilisé, très digéré pour plusieurs raisons. Enfin, ce que vous dites, alors effectivement, la controverse est un des outils importants de la communication. Un défilé, c'est un exercice de communication. Effectivement, si on était toujours que dans le tout beau et tout glamour et tout universellement acceptable, il y aurait un moment d'ennui ou un moment d'oubli. Maintenant, tout ce après, en fonction du DNA d'une maison ou d'une autre, certaines sont beaucoup plus dans la controverse, d'autres pas du tout. Mais la réalité, c'est que pour bien communiquer, enfin, il n'y a pas de bien ou mal, mais pour le faire le plus efficacement possible, il faut pas de règles, il faut surtout pas ne suivre qu'un seul fil conducteur toujours. Donc, les maisons qui sont tout le temps plutôt dans la controverse, par moment, doivent en sortir pour de nouveau intéresser. Et à l'inverse, celles qui ne le sont pas du tout doivent commencer à rentrer dedans. Et ce qui se passe, c'est que la temporalité générale de l'intérêt des gens dans le monde aujourd'hui pour quoi que ce soit est de plus en plus courte. C'est valable pour la mode, évidemment. La mode, d'ailleurs, est, à mon avis, de tous les domaines créatifs et commerciaux à la fois, le plus rapide d'entre tous, objectivement. Le monde de l'art, la suite pas loin. La quantité de production et d'information et de diffusion de l'art est pas loin de celle de la mode. Mais la mode, dans le sens concret du terme, c'est des créateurs et donc des maisons qui font chaque fois plus de collections. Et de collections, ça donne des défilés, d'images, etc. On arrive à une telle quantité gigantesque ici, aujourd'hui, qui est un vrai débat d'ailleurs, que pour continuer d'intéresser, effectivement, on passe de plus de controverses à moins de controverses. Et d'ailleurs, les gens changent de plus en plus vite. La saison pendant laquelle on se parle est une année où précisément la majorité des directeurs artistiques de toutes les plus grandes maisons du monde, qui sont pour la plupart en France ou en Italie, sont en train de changer. Avant, il restait pour certains plusieurs décennies, comme Karl Lagerfeld à une autre époque, ou plus d'une décennie, comme beaucoup d'autres récemment, à peine quelques années aujourd'hui. Et effectivement, donc pour répondre à la question, je pense que l'art contemporain aide à l'inspiration des maisons pour communiquer en utilisant d'autres outils et d'autres moyens qui servent soit à la controverse, soit à l'attirance, soit à la séduction.
J'ai quand même une question à vous poser, Alexandre de Bétac. Plus le monde va mal, plus le luxe va bien. Et le monde va très mal. Ça pose aussi une question de soutenabilité de ce système que vous dites mondialisé, qui est une mondialisation heureuse, mais destructrice, enfin heureuse pour ceux qui en profitent, pour l'oligarchie. Aujourd'hui, ça pose des problèmes.
Absolument.
Des problèmes qui sont sérieux et que vous vous êtes posé aussi, je crois.
Je me les suis posé de manière générale et puis j'ai essayé d'aider à les régler, mais de manière plus précise dans mon domaine à moi. Effectivement, en 2020, après presque une décennie de travail, on a réussi au Bureau Bétac à être la première agence de création et de production dans le monde du luxe au monde, à être labellisée ISO 20121, qui est le label de production éco-responsable. Maintenant, il ne s'agit que de production de défilés. C'est-à-dire qu'à mon humble niveau, j'ai eu la chance, avec mes équipes formidables, de réussir, et avec les clients formidables qui nous ont suivis et qu'on a avec lesquels on a travaillé, de réussir à prouver qu'on peut produire des événements éphémères et entre guillemets écologiquement inutile voire néfaste en quelque chose de moins néfaste et avec l'espoir un jour peut-être de les rendre même je dis pas qu'ils vont être bénéfiques mais qu'ils puissent devenir neutres. C'est un exercice qui a pris des années et on est arrivé en faisant beaucoup de changements à effectivement quelque chose de plus acceptable. Mais néanmoins, il ne s'agit que du défilé. Le monde du luxe et de la mode en général crée un vrai problème de sustainabilité au niveau mondial. Et comme vous le dites, malheureusement, plus le monde va mal, plus le luxe va bien. Donc, pour pouvoir régler ces autres parties du problème qui sont plus grandes que les miennes, parce qu'en vrai, le défilé de mode n'est qu'une toute petite partie de la dépense carbone et du problème écologique que suscite la mode et le luxe. Il faudrait effectivement repenser complètement, je pense, la communication, pas que par le défilé. Quoique le défilé est l'un des outils les plus puissants de communication des marques de mode. Donc je ne désespère pas de penser que par cet outil-là déjà, on peut aider à changer beaucoup de choses. Mais il faut effectivement, à un moment donné, changer complètement la mentalité du consommateur et sa manière de consommer pour que les grandes marques de luxe et le monde de la mode puissent peut-être continuer de fleurir, mais en produisant moins, en faisant moins, en faisant autre chose, en vendant autre chose. Enfin, c'est une très longue autre discussion, mais effectivement, c'est un vrai débat et un vrai problème.
C'est une question de démesure aussi, hein.
Oui, et de savoir exister, comment exister, selon quelle modalité. Je pense, comme Alexandre de Bétac vient de le souligner, on est en pleine Fashion Week de Paris. Et certes, il y a les grandes maisons qui produisent des spectacles assez incroyables qui vont être vus par des millions de spectateurs et autres usagers des réseaux sociaux. Mais si on regarde du côté des marques indépendantes ou émergentes, ce défilé, c'est aussi, ça rejoint ces enjeux de l'art contemporain, un moment de reconsidérer que ces directeurs artistiques, ces designers, ce qu'on appelle les stylistes, les couturiers avant, c'est aussi des gens qui pensent certes leur collection, mais qui pensent des espaces, des installations, qui ont une vision aussi par l'image, alors qui s'appuient sur des collaborateurs talentueux comme Alexandre de Bétac par exemple. Mais ce que ça produit, c'est aussi un univers créatif qui parfois peut avoir des répercussions par-delà, bien sûr, le défilé. C'est un dialogue avec l'architecture, c'est un dialogue avec le design, c'est un dialogue un peu plus vaste. Et bien sûr que le défilé est un outil de communication, mais c'est aussi un espace de création. Et je le vois très bien en travaillant avec une créatrice donc, qui s'appelle Meryl Rogue, qui présente dimanche son premier défilé à Paris, qui est aussi un moyen pour elle d'exister. Parce que pas de défilé, pas d'existence dans cette Fashion Week, quand bien même on fait une belle présentation. Cette dimension performative et spectaculaire du défilé, elle permet d'avoir une voix.
Et c'est pour ça, Alexandre de Bétac, que vous avez créé, après le studio Bétac, je l'ai dit au début de cette émission, le studio Tag B, qui en est son renversement politique. Il ne s'agit plus de créer des événements, mais d'habiter des lieux, des objets. Et là, on est dans une autre logique qui peut-être ne naît pas de l'écœurement de la première, mais qui peut-être de son épuisement, non ?
Non, exactement, vous avez raison. Ça n'est pas de l'écœurement, il n'y a pas d'écœurement, si ce n'est qu'effectivement, il y a un jour dans la vie où on se dit qu'il faut qu'on revoie peut-être les choses autrement. Le studio Tag B, effectivement, est né de l'envie de faire des choses pérennes et pas que éphémères. Après plus de 1500 défilés dans ma vie, qui, pour les derniers, durent parfois même moins de 10 minutes. Et quand on voit l'immensité des efforts, aussi bien physiques et intellectuels et artistiques et financiers, qui sont déployés, c'est vrai que je pense que la création et l'énergie créative perspective que moi j'ai mis dans ça pendant toute ma vie, je souhaite la déplacer vers des choses plus pérennes, mais avec les mêmes outils et de la même manière, que ce soit pour créer des installations artistiques semi-pérennes ou des maisons ou des endroits qui puissent être ou des installations artistiques qui sont sans nom, mais qui servent aussi à la communication, mais qui n'ont pas le problème que pose le problème pour moi de l'ultra et de l'éphémère, du seulement éphémère du défilé.
Vous savez, ce qu'on pose comme question aux historiennes, Éléonore Chaline, c'est la question de l'origine, mais c'est aussi la question de l'archive.
Comment on écrit l'histoire de ça? Comment est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous travaille aussi, de se demander ce qui va rester des défilés?
Alexandre de Bétac, rapidement, parce que
oui, bien sûr, ça me travaille. Alors j'ai eu la chance, moi, il y a quelques années, de publier un livre avec Faïdon, qui justement retraçait mon travail, mais vu devant, vu derrière.
Qui est votre anthologie, en fait.
Oui, qui est une anthologie, mais elle a presque, ça fait déjà 8 ans, donc malheureusement 8 ans, ça représente quelques centaines de défilés, donc il faut mettre à jour. Mais la question est une très grande question. Le défilé, quand on le crée, au moment où on le fait, enfin moi, en tout cas, j'ai toujours voulu créer une émotion avant tout, parce qu'au-delà de l'image et du film, je pense que l'émotion était ce qui le rendait mémorable. Ensuite, il a fallu digitalement créer, transmettre l'émotion. À l'époque, pendant un peu avant le Covid, on a créé Bureau Futur, qui était justement pour contrôler mieux les images que l'on faisait de ces défilés, parce que finalement, il n'y a qu'entre 500 et 1000 ou 1500 personnes qui sont là. Et il y a, comme on le disait tout à l'heure, des millions et des millions de gens qui n'y sont pas. Et c'est un exercice hyper compliqué, qu'on a tous développé un peu mieux pendant le Covid, puisque évidemment, personne ne pouvait être là. On s'en est fatigué très très vite, et Dieu merci, le Covid n'a pas duré longtemps. La réalité, c'est qu'à posteriori, bien plus tard, comme vous le dites, qu'est-ce qui restera plus tard de tout cela? Il y a une grande documentation, il y a peut-être trop de documentation justement, donc c'est la documentation elle-même est très éphémère parce qu'on en voit tellement qu'on la regarde et on la laisse passer. Je pense que c'est quelque chose effectivement qu'on peut commencer à se poser sérieusement comme question, et peut-être qu'en travaillant plus sur les archives et sur tout ça, on aura l'occasion d'en faire un petit peu moins maintenant et de dédier un peu d'énergie et de temps justement à ce qui a déjà été fait pour pas continuer à en faire un peu trop.
C'était Allons-y voir. Merci à vous quatre, Émilie Amène, Alexandre de Bétac, Éléonore Chaline et Manuel Charpie. Les références de vos travaux et parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet et Anouk Minaudier, à la prise de son Élise Le et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.